Féroé Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition de Le Monde aujourd'hui, de ce 7 mars 2023. En République démocratique du Congo, les combats continuent dans l'est du pays, malgré un cessez-le-feu annoncé.
Nous avons dit que nous voulons le dialogue. Nous avons dit que nous sommes faits.
Nous retrouverons dans la partie magazine Major Willy Ngoma, porte-parole du M23, groupe rebelle congolais. Dans le sud de la Somalie, plusieurs soldats ont été tués par les Shebab. Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, est à Bagdad pour réaffirmer le partenariat stratégique entre les États-Unis et l'Irak. Mobilisation en hausse en France pour la 6e journée de protestation contre la réforme des retraites. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Les combats se sont poursuivis ce matin dans l'est de la République démocratique du Congo, malgré l'annonce le 3 mars à Luanda, en Angola, d'un nouveau cessez-le-feu accepté par la rébellion du M23, selon des sources locales. La trêve devait débuter ce mardi à midi avec l'arrêt des combats dans toute la région orientale de la RDC. Les détails avec Lionel Gaïma.
Les combats ont repris lundi matin entre l'armée et le M23 sur les fronts nord et sud dans la province du Nord-Kivu, faisant plusieurs morts et blessés civils selon les sources hospitalières et humanitaires. Ce mardi, alors que le cessez-le-feu était prévu à midi, les affrontements se sont poursuivis et les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir lancé des attaques sur leurs positions. Karouba, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Goma, vient de tomber dans les mains des rebelles. Nous les avons attaqués cette nuit, mais ce matin, ils ont lancé une contre-attaque et à 7 heures, les combats continuent, a déclaré une source sécuritaire. L'attaque a ciblé le contingent burundais récemment déployé dans le cadre de la force régionale est-africaine et un camp de personnes déplacées et la cité de Mubambiro, causant d'énormes dégâts. À 20 km à l'ouest de Goma, déclaré lundi soir le lieutenant-colonel Guillaume Djike, porte-parole de l'armée au Nord Kivu. De son côté, Willy Ngoma, un porte-parole du M23, a déclaré ce mardi que l'armée congolaise avait attaqué hier simultanément toutes ses positions et que la rébellion subissait encore des attaques mardi matin. Le M23 réagit en légitime défense, a-t-il affirmé.
Au Mali, une influente organisation de responsables religieux a appelé aujourd'hui les fidèles à s'opposer au projet de nouvelle constitution présenté aux autorités et au maintien du principe de laïcité de l'État. La Ligue malienne des imams est érudite pour la solidarité islamique qui préfère la notion d'État multiconfessionnel, lance cet appel à quelques jours de la date initialement prévue pour un référendum sur cette nouvelle constitution. Les Maliens étaient censés être consultés le 19 mars. Tout indique que l'échéance ne sera pas respectée, bien que Bamako n'ait encore jamais admis publiquement le report de ce qui constituerait le premier jalon validé par le vote sur la voie d'élection en février 2024 et d'un retour des civils au pouvoir. Plusieurs soldats somaliens ont été tués ce mardi dans l'attaque d'une base militaire revendiquée par les Shebab à Djane Abdal, une ville du sud du pays reprise en janvier aux islamistes radicaux, ont déclaré des sources militaires. Les précisions avec John Lindon.
Les terroristes ont attaqué tôt ce matin la base militaire située à environ 480 km au sud de la capitale Mogadiscio, a fait savoir par téléphone Mohamed Rachid, commandant militaire. Ils ont tenté de prendre d'assaut la base après avoir utilisé des camions chargés d'explosifs pour lancer l'attaque, mais les forces de sécurité les ont repoussés. Nous avons perdu 7 soldats dans les combats. L'attaque a été revendiquée par les Shebab, groupe affilié à Al-Qaïda. Les autorités avaient annoncé en janvier la reprise de la ville de Djane Abdal, tenue par les islamistes Shebab. Ces insurgés combattent depuis 2007 le gouvernement fédéral, soutenu par la communauté internationale. Chassés des principales villes du pays en 2011-2012, les Shebab restent solidement implantés dans les vastes zones rurales. Le président Hassan Cheikh Mohamoud, revenu au pouvoir en mai 2022, leur a promis une guerre totale.
L'opposante tunisienne Siem Benzedrine a annoncé aujourd'hui qu'elle était interdite de quitter le pays après son inculpation dans le cadre d'une enquête concernant un rapport rédigé par l'instance Vérité et Dignité, IVD, qu'elle a présidé sur les crimes commis sous la dictature. Dans un communiqué, Mme Benzedrine dit faire l'objet, depuis février 2021, d'une enquête judiciaire pour des soupçons de falsification de ce rapport. Des femmes du monde entier réunies au Maroc ont lancé aujourd'hui un appel international pour la paix dans un contexte d'urgence à la veille de la Journée internationale des femmes. Ces activistes, dont l'Iranienne Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix, sont réunies mardi et mercredi dans la ville d'Essaouira pour échanger, réfléchir ensemble, apprendre les unes des autres et se nourrir de leurs engagements. Soutenu par les Nations Unies, l'appel se traduira par la création d'un forum mondial des femmes pour la paix.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, va rencontrer demain mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev pour discuter du renouvellement de l'accord avec Moscou sur les exportations de céréales ukrainiennes depuis des ports de la mer Noire qui doit bientôt expirer. L'accord de 120 jours, initialement négocié par les Nations Unies et la Turquie en juillet, prolongé en novembre, sera renouvelé le 18 mars si aucune partie ne s'y oppose. Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, en visite à Bagdad, a souhaité aujourd'hui renforcer et élargir le partenariat entre les États-Unis et l'Irak. Cette visite surprise a lieu peu avant le 20e anniversaire de l'invasion américaine qui renversa Saddam Hussein. Le point avec Rosé Monezero.
À Bagdad, Lloyd Austin a rencontré mardi le ministre irakien de la Défense Thabet al-Abbasi et le premier ministre Mohamed Chia al-Soudani. Je suis optimiste quant à l'avenir de notre partenariat. Les États-Unis continueront de renforcer et d'élargir notre partenariat en faveur de la sécurité, la stabilité et la souveraineté irakienne, a déclaré le ministre américain à l'issue de ses entretiens. De son côté, le premier ministre irakien a souligné la volonté de son gouvernement de renforcer et consolider ses relations avec Washington, tout en disant chercher à maintenir des relations équilibrées avec les puissances régionales et internationales. Quelques 2500 militaires américains sont stationnés en Irak dans le cadre de la coalition internationale contre le groupe État islamique. Lloyd Austin a assuré que les forces américaines pourraient rester sur demande des autorités irakiennes. Fin 2021, l'Irak a annoncé la fin de la mission de cette coalition, mais qui reste officiellement déployée sur le sol irakien avec un rôle de formation et de conseil. Ces dernières années, des bases abritant la coalition avaient été la cible de roquettes et de drones armées, jamais revendiquées mais souvent imputées à des factions armées pro-Iran.
Les autorités américaines vont travailler étroitement avec le gouvernement mexicain pour s'assurer que justice soit faite après l'enlèvement dans le nord-est du pays de 4 Américains, dont 2 ont été retrouvés morts, a indiqué ce mardi un porte-parole de la Maison-Blanche. Les attaques contre des citoyens américains sont inacceptables, a dit John Kirby, porte-parole de la Maison-Blanche pour les questions de sécurité nationale. Joe Biden, le président américain, recevra le président sud-coréen Yoon Suk-yeol le 26 avril à la Maison-Blanche pour une visite d'État, forme la plus solennelle d'invitation par un président américain, a annoncé aujourd'hui sa porte-parole Karine Jean-Pierre. Cette deuxième visite d'État depuis l'arrivée du président américain au pouvoir, après celle du président français Emmanuel Macron, doit marquer le 70e anniversaire de l'alliance entre les États-Unis et la Corée du Sud et affirmer l'engagement sans faille de Washington envers le pays, selon un communiqué. Forte mobilisation en France ce mardi contre une réforme des retraites très contestée et voulue par Emmanuel Macron. Plusieurs secteurs comme les transports ou encore l'éducation sont fortement perturbés. Le point avec Abdou Ramandia.
Expédition de carburant bloquée à la sortie des raffineries, trains massivement annulés, écoles fermées, poubelles non ramassées. La France vit au rythme de la contestation contre la réforme des retraites. Pour tenter de faire plier le gouvernement et avant d'éventuelles reconductions de la grève dans les prochains jours, les syndicats tentent de mettre mardi la France à l'arrêt. Le secrétaire général de la centrale syndicale CFDT, Laurent Berger, a salué une mobilisation historique, son homologue de la CGT, Philippe Martinez, assurant que ça va être la plus forte journée de mobilisation depuis le début de ce conflit. Il s'agit, depuis le 19 janvier, de la sixième journée d'action contre cette réforme des retraites et son report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Selon les sondages, les Français sont majoritairement contre. À la compagnie nationale ferroviaire SNCF, 80% des trains étaient annulés avec des liaisons internationales dégradées, voire interrompues entre la France et l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni. Le trafic est également très perturbé dans le métro parisien.
Dans un plaidoyer passionné, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a dénoncé la menace virulente de la discrimination et du racisme, évoquant longuement les violences faites aux femmes, aux personnes d'ascendance africaine, les homosexuels et autres minorités. La discrimination et le racisme sont des menaces virulentes, tant pour la dignité humaine que pour nos relations en tant qu'être humain, a dénoncé Volker Türk lors de son premier grand discours général devant le Conseil des droits de l'homme depuis qu'il a pris son poste. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Écho avec Alexandrine Ollognon.
Les progrès vers l'égalité de salaire sont minimes entre hommes et femmes et ces dernières pâtissent à travers le monde, selon une étude de PricewaterhouseCoopers. La firme de conseil estime qu'une pénalité de maternité, soit une perte de rémunération pour les femmes qui élèvent des enfants, soit des gardes d'enfants trop chères et des carrières ralenties par les naissances, est le principal facteur expliquant cet écart de salaire. L'enquête « Les femmes au travail » montre que les progrès dans l'OCDE ont été excessivement faibles sur les 10 dernières années avec un écart de salaire persistant de 14%. À ce rythme, il faudra 50 ans pour atteindre la parité selon le cabinet. L'activité économique de l'Afrique du Sud, mesurée par l'évolution du PIB, a reculé de 1,3% au dernier trimestre de 2022, retombant à un niveau inférieur à son niveau d'avant-pandémie à cause de coupures d'électricité records. Selon des chiffres officiels publiés ce mardi, l'agriculture, les mines et l'industrie manufacturière ont également tiré l'évolution de l'activité vers le bas. Ici aux États-Unis, le principal taux directeur de la Fed, qui grimpe depuis un an pour juguler l'inflation, pourrait continuer son ascension au-delà de 5,1%, niveau auquel les responsables de l'institution le voyaient jusqu'à présent s'arrêter, a averti ce mardi son président Jerome Powell. Relever les taux renchérit le coût du crédit pour les ménages et les entreprises et doit donc freiner la consommation pour desserrer la pression sur les prix.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
La Coupe d'Afrique des moins de 20 ans, derby final très attendu entre la Gambie et le Sénégal.
Les deux voisins d'Afrique de l'Ouest s'affrontent samedi au Caire en Égypte. Chacun ambitionne d'inscrire son nom pour la première fois au palmarès de la CAN des moins de 20 ans. Les deux sélections ont fait la plus forte impression durant ce tournoi en remportant leurs 5 rencontres sans concéder le moindre but. En revanche, les Lionceaux ont inscrit 12 buts tandis que les Scorpions ont marqué 10 buts. En demi-finale, la Gambie a écarté le Nigeria 1-0 et le Sénégal a largement dominé la Tunisie par un score fleuve de 3-0.
La Coupe arabe des clubs champions fait son grand retour en 2023.
Tout à fait, ces équipes vont s'affronter en phase finale de la compétition du 23 juillet au 5 août en Arabie Saoudite. Plusieurs écuries africaines seront au rendez-vous, les Marocains de Wydad Casablanca, vainqueurs de la dernière Ligue des Champions en Afrique, le Raja Casablanca tenant du titre à l'été 2021, les Tunisiens de l'Espérance Tunis, les Algériens du CR Belouizdad et les Égyptiens du Zamalek. À noter que d'autres formations africaines peuvent espérer les rejoindre à condition de franchir les deux tours préliminaires.
Chelsea et Dortmund s'affrontent en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.
Battus 1-0 à Dortmund, les Anglais de Chelsea jouent leur survie ce mardi à 21h à Londres. Les Blues de Chelsea ont mis le paquet lors des deux dernières fenêtres de transfert avec une enveloppe de 680 millions d'euros dépensés. Et le nouveau propriétaire américain Todd Boehly croise les doigts pour ne pas voir ses espoirs européens s'envoler. Son équipe de stars a laissé filer la manche aller à Dortmund de justesse. mais elle conservait l'espoir de renverser la vapeur devant son public. Les Portugais du Benfica abordent avec confiance et 2 buts d'avance face à Bruges dans l'autre rencontre de la soirée. Et c'est tout pour l'espoir.
Page de sport VO Afrique signée Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le mouvement rebelle M23 annonce observer un cessez-le-feu depuis 12 heures à Bunagana, dans le nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, comme demandé par la médiation de la crise congolaise. Mais sur le terrain, des combats se poursuivent malgré cette annonce. Eddie Sango a joint depuis le Masisi le porte-parole du M23, Major Willy Ngoma.
Nous avons signé le cessez-le-feu qui entre en vigueur à partir d'aujourd'hui, précisément à 12h, heure de Bunagana, donc heure locale, heure de l'Est.
Mais sur le terrain, on constate que les combats se poursuivent. Que se passe-t-il?
Nous avons dit que nous regrettons notre fichier, les comportements du gouvernement. Non pas puisque nous avons signé le cessez-le-feu, mais le gouvernement n'a pas signé le cessez-le-feu, puisque ça fait une semaine déjà passée, ils continuent à bombarder, à attaquer nos zones simultanément. Donc, ils ont tellement bombardé la zone de Kisichi, Mouesso, et partout. Donc, Katsiki n'est pas pris, une fois qu'il est bombardé. Eh bien, mais ce qu'ils ont demandé au gouvernement au préalable, c'est qu'ils puissent aussi signer les cessez-le-feu, mais quant à nous, nous allons respecter, et nous les demandons de respecter vraiment les cessez-le-feu pour qu'il y ait une issue pacifique à la paix.
Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous attaquez?
Le terme est clair, d'autant plus que nous avons dit, et nous allons respecter, puisque nous voulons que les cessez-le-feu soient tellement effectifs. C'est-à-dire, dès qu'ils viennent nous attaquer, là où nous avons ça clairement, nous sommes précis. S'ils viennent nous attaquer, nous n'allons pas croiser les bras, mais c'est évident. Là, nous allons répliquer à l'RC. Donc, c'est pour cela que nous les demandons qu'ils puissent d'abord cesser avec cette aventure, de comprendre que tout le monde a besoin de la paix maintenant et qu'il était le temps que nous puissions vraiment faire la paix.
À plus tard qu'hier, le gouvernement vous a accusé de vous attaquer aux forces burundaises qui s'est déployées, mais aussi à certains camps des déplacés. Comment vous réagissez par rapport à ça?
Ce n'est pas tellement de notre mode opératoire. Tout le monde le connaît, le 1-23. On ne peut jamais s'attaquer dans un cas des déplacés. Non, nous ne sommes pas des codeco, nous ne sommes pas des maï-maï. Jamais nous pourrons le faire. Mais il faut demander au gouvernement de dire la vérité. Puisque le gouvernement, du jour où Patrick Larvitte a fait lancer une crédit n'importe quoi, ils sont capables d'instrumentaliser n'importe quoi, n'importe quoi. Donc, ce qui s'est passé, vous connaissez très bien, le gouvernement, il a une coalition. Alors, il y a l'Hertzler, il y a le Niatura, il y a le Mai Mai et il y a le CNC. Qu'est-ce qui se passe au sein même de leur organisation? Ils ne s'attendent pas. Il y a des choses abominables qui se passent dans leur camp. Donc, vous allez voir les Mai Mai qui vont dire que non, ils sont contre les Burundais. Vous allez voir que non, les CNC disent que non, ils sont contre ça. Donc, ils n'ont pas seulement un leadership approprié pour diriger, leur diriger. Et chacun fait ce qu'il veut. C'est du désordre. Cela, nous disons, nous ne pouvons pas le faire, mais celui qui est responsable de tout cela, c'est le gouvernement congolais. C'est une accusation gratuite pour justifier certains motifs, je ne sais pas.
À partir d'aujourd'hui, vous respectez le cessez-le-feu, les combats se poursuivent, et demain, après-demain, quel est le calendrier précis que vous suivrez? Vous allez vous retirer aussi des positions demandées?
Nous avons tendu la main au gouvernement. Nous avons dit que nous voulons du dialogue. Eh bien, au moment du dialogue, à l'issue du dialogue, et nous allons trouver un motif suffisant. Nous allons commettre peut-être un motif superandi pour résoudre certaines histoires. Nous avons dit que nous sommes prêts et nous remercions sincèrement les leaders de la région.
Major Willy Ngoma, porte-parole du M23.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Bukavu sur 97.4 FM.
Dialogue inter-tchadien, des groupes politico-militaires non signataires de l'accord de Doha sont à Rome pour des échanges sur la situation politique et sécuritaire au Tchad. Une rencontre sous la médiation de la communauté catholique Sant'Egidio. Dans un communiqué, le mouvement Wakitama dénonce l'exclusion de la société civile et des partis de l'opposition de cette discussion et dit craindre une inopportune répétition des assises de Doha. Alexandrine Ollognon a joint Maître Max Luanga, l'un des porte-parole et coordinateur du mouvement Wakitama.
Ce n'est pas non plus une des premières assises sur le Tchad, sur la paix au Tchad. Il y a eu, comme vous vous en souvenez fort bien, les assises de Doha, où déjà la société civile a été écartée, de même que les partis politiques de l'intérieur. Et nous savons où cet accord-là a mené, étant donné que même les Qataris, à la date d'aujourd'hui, on nous raconte qu'ils se sont désengagés du processus de paix au Tchad. Et donc, ayant eu ce passé-là, il était convenant pour nous tous d'ailleurs, et pour les médiateurs, pour n'importe lequel des médiateurs, de convenir avec le peuple tchadien que des assises mais exclusives ne pouvaient pas du tout nous amener à une paix durable comme nous le souhaitons.
En effet, vous parlez d'échec en parlant des assises de Doha dans votre communiqué et vous demandez au gouvernement et à la communauté internationale de mettre davantage d'efforts et des ressources à garantir une paix durable. Qu'attendez-vous concrètement de ces deux parties?
Moi, je crois que nous avons la possibilité, l'occasion en or même, de revenir sur les conclusions du fameux dialogue national inclusif pour faire une relecture collective commune et mais discuter les points de blocage, les points qui gênent les uns et les autres pour nous permettre d'aller de l'avant et de scruter vraiment les voies d'une paix véritable. C'est possible.
Comment appréciez-vous le climat politique actuel du Tchad et est-ce que vous êtes confiant que le processus aboutisse à des élections crédibles à la fin de la transition?
Non, le climat politique est délétère. Parce qu'au quotidien, les informations qui nous parviennent ne nous rassurent nullement. Vous savez que là, ils ont mis en place une commission chargée d'organiser le référendum sur la forme de l'État et autres, mais de manière encore exclusive, c'est prévalant du fait du prince nommer des gens alors que nous sommes dans une phase de transition. Et dans la transition, tant que les décisions ne sont pas prises de façon consensuelle, on est à côté de la plaque. Le but d'une transition, justement, c'est pas de s'imposer aux gens. Nous essayons, nous nous disons que bon, nous sommes dans une situation que les uns et les autres n'ont peut-être pas souhaité. Mais dans ce cadre-là, comment on fait? Alors, on peut pas comprendre qu'à l'échelle d'un pays, nous nous obstinions dans une démarche exclusive, dans une démarche mais qui ne profite à personne. Puisque, en dépit de tout, le Tchad reste au fond d'un trou et ça devrait inquiéter ceux qui prétendent le diriger en ce moment.
C'était Maître Max Longa, l'un des porte-parole et coordinateur du mouvement Wakitama.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portail.
Les défenseurs de l'environnement se félicitent de l'accord intervenu au cours du week-end sur un traité mondial de longue date visant à protéger les océans et à promouvoir l'utilisation durable des ressources telles que le pétrole, le poisson et d'autres formes de vie marine. Les participants aux négociations affirment que cet accord aura un impact positif sur les pêcheurs en difficulté en Afrique et dans les pays du Sud. C'est un reportage de Henry Wilkins à Port-Soudan, au Soudan. Le récit est de Rosine Monizero.
Des larmes de joie aux Nations Unies à New York samedi, alors que les délégués se sont mis d'accord sur un traité international visant à rendre durable l'exploitation des ressources en haute mer, après ce qu'un scientifique a appelé les négociations internationales les plus importantes dont personne n'a jamais entendu parler. Selon les experts, cet accord aura probablement des répercussions considérables dans le monde entier, notamment pour les pêcheurs africains comme Abdullah Hussein Mohamed, qui vit à Port-Soudan, sur la côte soudanaise. Abdullah participe à la gestion du marché local du poisson. Chaque matin, on peut le trouver en train d'écailler et de fileter du poisson dans le bazar bondé et animé. Il explique que les stocks de poissons en Afrique diminuent depuis des décennies, un fait confirmé par les données de l'ONU. Lui et l'ensemble de la communauté en subissent les conséquences.
Autrefois, le nombre de poissons était beaucoup plus important. La mer était pleine d'espèces différentes. Mais ces dernières années, le nombre de poissons a diminué. Nous devons parcourir à des distances de plus en plus longues à la recherche des poissons.
Le nouveau traité se concentre sur la haute mer, toute partie de l'océan située à au moins 200 000 nautiques du rivage, qui est généralement inaccessible aux pêcheurs artisanaux africains. Les experts affirment que la préservation de l'écosystème en haute mer signifie qu'il y aura plus de poissons et que certaines de ces espèces, dont Mohamed dit qu'elles ont pratiquement disparu, se trouveront désormais plus près de la terre où ils travaillent. Nicolas Clark travaille pour Pew Charitable Trust, une organisation qui a joué un rôle majeur dans les négociations.
L'un des aspects intéressants de ce traité sur la haute mer est que même si ces aires marines protégées sont établies dans les eaux internationales, les eaux côtières et les nations côtières s'attendront à en voir les bénéfices.
Les communautés de pêcheurs africains jouent un rôle crucial dans la sécurité alimentaire et l'économie du continent. Selon la Banque mondiale, la pêche contribue à hauteur de 24 milliards de dollars à l'économie africaine. Michael Imran Kanu a dirigé la délégation africaine lors des négociations. Selon lui, outre l'augmentation des stocks de poissons, l'Afrique bénéficie d'autres avantages, une grande partie de l'accord étant axée sur le partage équitable des bénéfices entre les pays signataires du traité.
Des mesures ont été prises pour faire face à l'impact négatif du changement climatique. Le transfert de technologies, espérons-le, se fera de manière significative. Le développement des capacités pour s'assurer que les scientifiques sont également en mesure de participer.
Cependant, le Pew Charitable Trust estime que le nouveau traité n'est pas une panacée pour les pêcheries surexploitées. Le nouvel accord devra travailler avec les organismes existants pour s'assurer que leurs activités ne nuisent pas à l'efficacité de la conservation, a expliqué Liz Karan, directrice du projet Pew, à la VOA. Pour la communauté de Mohamed et d'autres dans toute l'Afrique, les bénéfices promis ne peuvent arriver assez tôt.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les femmes à l'assaut du monde digital et le combat pour un monde technologique inclusif. Cette année, la Journée mondiale de la femme braque ses projecteurs sur un écart persistant en matière d'accès au numérique qui empêche les femmes d'exploiter pleinement le potentiel des technologies. Comment garantir un meilleur accès au numérique pour aider à l'autonomisation des femmes? Comment le digital peut-il aider les femmes dans l'entrepreneuriat? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
En France, les syndicats tentent de paralyser le pays contre la réforme des retraites à quelques jours d'une probable adoption par le Parlement de ce projet de loi controversé. Manifestations, grèves reconductibles, ronds-points occupés, spectacles annulés, les Français espèrent un tsunami social qui amènera le gouvernement à reculer sur le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, une mesure très impopulaire selon les sondages. Pour une mise au point sur la situation, Eric Manirakiza a joint en France l'analyste Athanase Karayenga.
Non, c'est une journée démocratique, c'est une journée légitime. On n'est pas chez Poutine quand même, on est dans un pays où il y a le débat dans la rue, le débat avec les syndicats, la démocratie tient compte aussi des avis, des suggestions des syndicats. Mais pour autant, il y a aussi un débat au Parlement, au Sénat, à l'Assemblée nationale, c'est assez musclé, mais c'est tout à fait normal.
Mais où se trouvent les incompréhensions? Parce qu'il y a d'un côté le gouvernement qui fonce sur sa réforme et de l'autre côté des partenaires sociaux qui ne sont pas d'accord.
Non, il n'y a pas d'incompréhension. Ce sont des séquences de vie démocratique qui ne sont pas comparables. Le gouvernement dont vous parlez, qui foncerait, non, il ne fonce pas parce que ça faisait partie du programme du candidat Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron a été élu et il a mandat de mettre en œuvre cette réforme. Donc, il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas de forcing, il n'y a pas de passage en force de cette réforme. Et le président Macron a été élu, il doit mettre en œuvre cette réforme. Ceci dit, même si elle est juste, parce que la population, elle diminue, c'est une évidence, et le travail, la longévité des gens s'allonge aussi. Les gens travaillent de plus en plus tard et en bonne santé. Les Français vivent de mieux en mieux et plus longtemps. On voit autour de nous des gens qui ont 80, 85 ans, 90 ans. Et ça devient une norme sociale. Mais pour autant, il faut, dans cette réforme, il faut tenir compte de la pénibilité de certains travaux.
C'était l'analyse Athanase Karayenga, joint en France par Eric Manirakiza. Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde de Josel Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.